Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30, temps universel, du mercredi 3 avril 2019. Ekia Badou et Eric Manirakiza, la présentation. Voici les titres.
En Algérie, le Conseil constitutionnel entérine la démission du président Bouteflika.
Une touriste américaine et son chauffeur ougandais enlevés en Ouganda par des hommes armés.
Les leaders du Soudan du Sud attendus la semaine prochaine au Vatican pour une retraite spirituelle.
En partie magazine, un témoignage d'une rescapée du génocide au Rwanda.
Les gendarmes qui ont tué ma famille, ce sont eux qui m'ont aussi coupé avec les machettes. Donc j'ai servi, ils connaissaient que j'étais aussi morte.
Dans 10 minutes, l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal.
Le Conseil de sécurité de l'ONU va se pencher dans quelques mois sur l'avenir de sa mission de casque bleu au Mali. Le Conseil a décidé à l'unanimité que tout changement ne devait pas mettre en péril la stabilité du Mali et de sa région. Le secrétaire général Antonio Guterres devra présenter des options en vue d'une adaptation significative de la MINUSMA pour renforcer l'efficacité de son soutien à la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Rappelons que la MINUSMA compte 14 000 casques bleus déployés depuis 2013 dans le pays.
Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se trouve en Libye pour une visite non annoncée. C'est pour tenter de pousser le pays à s'engager sur un processus de réconciliation. Une conférence nationale est convoquée du 14 au 16 avril à Ghadames, dans le centre de la Libye, pour ouvrir la voie et fixer une date pour des élections législatives et présidentielles dans ce pays déchiré par les conflits. Monsieur Guterres s'est dit totalement engagé à soutenir un processus politique dirigé par les Libyens, conduisant à la paix, la stabilité, la démocratie et la prospérité pour le peuple libyen.
Le Conseil constitutionnel algérien constate la vacance définitive de la présidence de la République. C'est ce qu'a annoncé la télévision nationale algérienne au lendemain de la démission d'Abdelaziz Bouteflika.
Le Conseil informe aujourd'hui le Parlement de la déclaration de constat de vacance définitive de la présidence de la République, conformément à l'article 102, alinéa 5 de la Constitution, selon la télévision nationale. Aucune date n'a été annoncée pour la réunion des deux chambres du Parlement, prochaine étape prévue par la Constitution. C'est le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, 77 ans, qui est chargé d'assurer l'intérim pendant 3 mois. M. Ben Salah a désormais 90 jours maximum pour organiser une élection présidentielle à 2 tours et remettre le pouvoir au nouveau chef de l'État élu. En tant que président par intérim, il ne peut pas se présenter. Cible depuis le 22 février d'une contestation inédite, Abdelaziz Bouteflika a remis hier soir sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel, Tayyip Belaïz, en présence de M. Ben Salah. Les manifestants qui réclament en masse depuis plus d'un mois le départ de Bouteflika, mais aussi de son entourage et de ce qu'ils appellent le système, ont déjà fait savoir ces dernières semaines leur rejet du processus d'intérim constitutionnel qui maintient en place les hommes clés du système. Le président par intérim et celui du Conseil constitutionnel sont des fidèles de longue date du président démissionnaire.
C'était les détails de Abdelrahman Dia. Le président comorien Azali Assoumani a repris ses fonctions sans attendre son investiture officielle fixée au 26 mai. Il n'a patienté que quelques heures après la confirmation officielle hier de sa réélection lors du scrutin du 24 mars. Monsieur Assoumani s'était officiellement mis en congé pour la présidentielle anticipée du mois dernier, comme l'exige la constitution de l'archipel. Il estime que la décision de la Cour suprême qui confirme sa réélection, met immédiatement fin à son statut de président en congé.
Des hommes armés ont enlevé hier soir une touriste américaine et son chauffeur ougandais dans le sud-ouest de l'Ouganda. Leur ravisseur exige une rançon, a annoncé aujourd'hui la police locale. Les précisions avec Irénée Herman Ongbo.
Les ravisseurs ont utilisé le téléphone de la victime pour réclamer 500 000 dollars américains, a indiqué Pauline Amaï, porte-parole adjointe de la police ougandaise, dans un communiqué. Ils ont enlevé mardi soir la touriste américaine et son chauffeur dans un parc situé dans le sud-ouest, non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo. L'embuscade a eu lieu près de l'entrée Katoke dans le parc national Queen Elizabeth, selon le porte-parole du gouvernement Ofwono Opondo. Quatre autres touristes présents au moment de l'enlèvement ont rapidement été emmenés en lieu sûr, a indiqué Ofuono Opondo, qui souligne que la priorité à l'heure actuelle est de localiser, sauver et ramener en sûreté les deux personnes enlevées. Selon lui, une opération conjointe de la police, de l'armée et des rangers ougandais est en cours. Le parc national Queen Elizabeth, un des plus connus d'Afrique de l'Est, est situé le long de la frontière avec l'Est de la RDC, une région instable où pilulent groupes armés et milices.
Polémique autour de la nationalité de chef rebelle nommé conseiller en Centrafrique. Une ONG de la société civile a émis des critiques, affirmant que plusieurs chefs de milice nommés à des responsabilités politiques étaient des étrangers. Un chef de groupe armé récemment nommé a assuré aujourd'hui être bien centrafricain.
Les leaders du Soudan du Sud sont attendus la semaine prochaine au Vatican pour une retraite spirituelle. C'est ce qu'annonce le Saint-Cierge. Morgane Liriek nous en dit plus.
Selon les informations de presse, le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar séjourneraient au Vatican les 9 et 10 avril. Les deux hommes ont signé en septembre dernier à Addis Abeba un nouvel accord de paix prévoyant un partage du pouvoir et visant à mettre un terme à une guerre civile de près de 5 ans qui a fait plus de 380 000 morts et poussé plus de 4 millions d'habitants à fuir leur foyer. Le pape François a maintes fois exprimé sa préoccupation pour le Soudan du Sud. Il avait réitéré à la mi-mars son souhait de se rendre dans ce pays comme signe de son encouragement au processus de paix à l'issue d'une audience accordée au président Salva Kiir. Le pape et le président sud-soudanais avaient alors évoqué les questions concernant l'application de l'accord auxquelles sont parvenus récemment les divers acteurs politiques en vue d'une solution définitive des conflits, du retour des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que du développement intégral du pays, avait indiqué un communiqué du Vatican.
Début d'une campagne de vaccination de masse contre le choléra au Mozambique, les autorités veulent enrayer cette épidémie causée par les inondations consécutives au passage du cyclone tropical Idai sur le centre du pays le mois dernier. Selon le dernier bilan, plus de 1400 cas de choléra ont déjà été recensés à Beira, dont deux mortels. La vaccination orale vise quelques 884 000 personnes, soit 80% de la population de la région de Beira, a précisé Marie Benigna, une responsable du ministère de la Santé.
En Égypte, le gouvernorat de la mer Rouge a interdit l'utilisation de plastique à usage unique, considéré comme destructeur de l'environnement maritime. Cette localité représente une importante région touristique de l'est de l'Égypte.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, 70e anniversaire de l'Alliance Atlantique, l'OTAN ne veut pas d'une nouvelle course aux armements ou d'une nouvelle guerre froide avec la Russie, mais elle saura se défendre si nécessaire. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'Alliance aujourd'hui, Michel Joseph.
Dans un discours devant le Congrès américain ici à Washington, le secrétaire général Jens Stoltenberg a lancé un appel à préserver l'unité des 29 États membres, alors que le président Donald Trump a par le passé critiqué les alliés. L'ex-premier ministre norvégien a rappelé la promesse solennelle faite par les fondateurs de l'Alliance, un pour tous, tous pour un principe parfois remis en cause par le président des États-Unis. Il a exhorté une fois de plus Moscou à respecter le traité de désarmement sur les armes nucléaires de portée intermédiaire signé avec les États-Unis pendant la guerre froide. Comme la veille à la Maison-Blanche, Jens Stoltenberg a salué l'insistance de Donald Trump pour que les 28 autres États membres augmentent leurs dépenses militaires. Ce message a un impact clair et renforce l'OTAN, s'est-il félicité.
Ici aux États-Unis, une commission du Congrès américain a engagé une procédure contraignante pour obtenir l'intégralité du rapport d'enquête sur une ingérence russe dans la présidentielle de 2016, plutôt que la version expurgée actuellement préparée par le ministère de la Justice.
L'Union européenne travaillera jusqu'au dernier moment pour éviter un divorce sans accord avec le Royaume-Uni, qui ne profiterait qu'aux populistes et aux nationalistes, a assuré le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, devant le Parlement européen à Bruxelles. La première ministre britannique, Theresa May, cherche un compromis avec l'opposition à Londres.
Le projet de loi du sultanat de Brunei entre en vigueur ce mercredi 3 avril. Les relations homosexuelles et l'adultère sont punies de la peine de mort et le vol d'amputation. Avec cette nouvelle loi, le pays d'Asie du Sud-Est, riche en hydrocarbures, se positionne aux côtés des groupes islamistes extrémistes présents dans la région. Les protestations se sont multipliées parmi les ONG et la communauté internationale. La France demande l'annulation de la loi. L'ONU la condamne et des célébrités appellent au boycott des grands hôtels du sultanat de Brunei.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Pour la campagne intermédiaire 2018-2019 du cacao qui s'est ouverte le 1er avril, le gouvernement ivoirien a annoncé avoir fixé le prix bord champ à 750 francs CFA le kilogramme, soutenu par la décision des autorités d'accorder une subvention de 38 milliards de francs CFA aux producteurs. Pendant cette campagne intermédiaire, les fèves sont d'une mauvaise qualité et les baisses sont fréquentes. Les producteurs de cacao reçoivent cette subvention en guise de compensation pour éviter les affres de cette mauvaise période. Au Malawi, la récolte de maïs de 2019-2020 pourrait chuter de 20% en raison des inondations provoquées par le cyclone Idai survenu le mois dernier. D'après le ministre malawite de l'Agriculture Joseph Mwanamvika, cité par l'agence Reuters, les inondations ont emporté 71 111 hectares de culture de maïs dans 5 divisions de développement agricole. Pour terminer, le nombre d'abonnés au téléphone mobile au Cameroun a baissé suite à la campagne d'identification imposée par les autorités et qui a conduit les opérateurs à désactiver plus de 700 000 puces d'abonnés qui ne sont pas en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur. Le site Financial Afrique écrit que ce nombre est passé de 90% en 2017 contre 76% en 2018, d'après le rapport de Jumia Mobile 2019.
Nous passons directement à la page des sports et nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous.
Le Togo tient son premier champion du monde d'arts martiaux mixtes.
Oui Eric, Baba Najombe, surnommé Zeus, a battu l'Afghan Nouri à Kaboul pour s'emparer de la ceinture de moins de 74 kilos de l'Ultimax. La Ligue d'arts martiaux mixtes, le jeune combattant de 23 ans, devient le premier combattant togolais à remporter une ceinture mondiale. En décembre 2017, Baba Najombe a décroché sa première ceinture dans la discipline en enlevant le titre ouest africain de moins de 70 kilos. Zeus a réussi à conserver son titre en avril 2018.
Le retour de Neymar sur le terrain, il a apparemment repris l'entraînement.
Oui Eric, comme prévu, la star brésilienne a repris l'entraînement pour les tests terrain, a indiqué le PSG sur son compte Twitter. D'après le club parisien, un bilan médical et radiologique complet sera réalisé par les spécialistes dans 15 jours. Blessé contre Strasbourg le 23 janvier dernier en Coupe de France, Neymar a suivi un traitement conservatif qui lui a évité un deuxième passage sur la table d'opération en un an pour le même os du pied droit. L'objectif du Brésilien sera d'être apte à jouer la finale de la Coupe de France le 27 avril prochain. Si le PSG se qualifie bien sûr face à Nantes en demi-finale ce soir.
Le roi Pelé. Nous sommes toujours en football, Yacouba. Il est hospitalisé à Paris.
Malheureusement, la légende brésilienne de 78 a été admise dans un hôpital d'une banlieue parisienne par précaution, mais va bien d'après son entourage. Pelé était venu en France rencontrer le prodige du PSG Kylian Mbappé. L'entourage du joueur évoque une infection, une petite fièvre et une simple mesure de précaution avant un long voyage pour rentrer au Brésil. La santé du roi du football est régulièrement un sujet d'inquiétude ces dernières années. En novembre 2014, vous rappelez Eric, le monde du ballon rond avait retenu son souffle quand le Brésilien avait été placé en soins intensifs après une infection urinaire qui a entraîné son placement sous dialyse. Pelé est jusque-là le seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde en 1958, en 1962 et en 1970.
Et on va terminer avec la NBA. On parle de Russell Westbrook qui signe un historique double, triple, Tabon.
Tout à fait, Eric. Le meneur d'Oklahoma City est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la NBA à réussir un double-triple-double avec 20 points, 20 rebonds et 21 passes décisives lors de la victoire de Thunder face à Los Angeles Lakers 119-103. Westbrook a égalé l'exploit statistique de Wilt Chamberlain. L'icône des années 1960 avait réussi le premier double-triple-double du championnat nord-américain avec 22 points, 25 rebonds et 21 passes décisives dans un match des Philadelphia Sixers contre Détroit en 1968.
C'était les sports de Yakuba Uenraogo qu'on va évidemment retrouver demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et Eki Abadou, Eric Manirakiza, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Poursuite de notre série sur le 25e anniversaire du génocide au Rwanda. Pour un témoignage, Idriss Fall, notre envoyé spécial, s'est rendu à Ndera, dans la banlieue de Kigali. Sa fille, Mukundwa, avait 7 ans et a survécu au génocide. Les Interahamwe ont tué sa mère et son frère. Après avoir reçu des coups de machette, elle a été abandonnée par ses bourreaux qui l'ont prise pour morte. Aujourd'hui, la jeune femme âgée de 32 ans consacre sa vie à aider les filles mères. Safi Life Organization forme chaque année 50 filles mères à la couture. Elles viennent au centre de formation avec leur bébé.
Je m'appelle Mukundwa Safi. Notre organisation s'appelle Safi Life Organization. Nous enseignons les femmes à coudre avec les machines et à travailler avec les meubles.
Et comment est-ce que toutes ces femmes sont venues vers vous?
Nous travaillons avec le secteur et le district. C'est le secteur qui nous donne les bénéficiaires. Ce sont des filles qui ont eu des enfants avant 17 ans.
Est-ce que c'était des viols ou bien c'était comment elles ont eu ces enfants?
Ce sont de différentes catégories. Il y a les violets, il y a l'ignorance aussi. Elles ne savent pas quoi faire avec la pauvreté. Donc, elles peuvent avoir des enfants facilement parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'être à l'école pour bien instruites, pour ne pas avoir les enfants avant le temps.
Vous leur apprenez la couture, après elles font quoi?
Après la couture, elles forment les groupes. Nous les aidons avec les machines. Ils commencent à travailler pour elles-mêmes.
Et la formation dure combien de temps?
La formation prend une année, 6 mois de pratique, 6 mois pour les essayer de travailler ensemble, les donner aussi les différents cours, les droits de base, les éduquer aussi à aider leurs enfants.
Comment est-ce que vous êtes venue cette idée d'aider les femmes?
Pendant le génocide, j'avais 7 ans, mais lorsque j'ai perdu toute la famille, lorsque j'étais à l'hôpital de Kibuye, j'ai promis au Seigneur que si je survivais, j'aiderais beaucoup de personnes que je peux.
Et comment est-ce que vous avez mis en place ça, les bâtiments, les machines?
Lorsque j'étais à l'école secondaire, j'ai donné le témoignage à Kigali Memorial Center. Puis j'ai eu la chance de rencontrer avec beaucoup de personnes, différentes personnes. Il y a une blanche américaine qui s'appelle Devon Ogden. Il m'a demandé qu'est-ce qu'elle peut m'aider moi-même. J'étais en 5e secondaire. Et je lui ai demandé de m'aider, d'aider les autres. Comme j'avais le fardeau d'aider les autres, donc il m'a aidé d'aider les autres. C'est comme ça que nous avons commencé Safe Life.
À 7 ans, est-ce que vous vous rappelez comment est-ce que vous avez perdu vos parents pendant le génocide?
Oui, à 7 ans, on est assez grand pour connaître toutes choses.
Ça s'est passé comment?
Ah. Nous sommes devenus de Kibuye. Nous étions allés à Stade Gatwaro. Donc, les Inéens sont venus. Ils sont venus, ont tué beaucoup de personnes. J'ai perdu la famille, mais lorsque nous sortons à Stade de Gatkoa, alors j'étais avec ma mère, avec mon grand frère, que j'ai perdu après des jours. Les énigmes qui ont tué ma famille, ce sont eux qui m'ont aussi coupé avec les machettes. Donc j'ai survécu et connu que j'étais aussi morte.
Et maintenant, vous êtes mariée, vous allez bientôt avoir un bébé.
Oui, je suis mariée, j'ai aussi des garçons. Bientôt, j'aurai un troisième enfant.
Safi Mukundwa, leader de l'association Safi Life Organization, qui aide les filles mères au Rwanda.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au lendemain de la démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika, une vingtaine d'associations de la société civile algérienne refusent une transition au sein même du même pouvoir. Des manifestations sont à nouveau prévues vendredi pour réclamer un changement démocratique. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg a joint Léna Abda, une jeune étudiante qui manifeste depuis le début du mouvement.
Pour moi, la démission du président Abdelaziz Bouteflika n'est qu'une... une sorte de mascarade pour laisser le clan Boutès au cœur du régime. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas uniquement de Bouteflika, mais de tout ce qui l'entoure et de tout ce qui le suit, c'est-à-dire ministres, familles, etc. Donc, pour moi, s'il n'y ait pas de président de la ville, Bouteflika ne change absolument rien à l'état actuel du pays.
Est-ce que vous avez peur d'une vraie manœuvre politique?
Non, je n'ai pas peur d'une vraie manœuvre politique parce qu'en fait, ce qui se remarque au niveau du gouvernement, c'est que c'est plutôt eux qui ont peur du peuple. Parce que pendant 20 ans, il y a eu un grand silence, un lourd silence d'ailleurs. Et le fait que le peuple se révolte cette année, ça les effraie énormément. Ils ont peur que le pouvoir revienne au peuple et du coup, qu'il y ait un remaniement politique ou non, ça ne me ferait pas.
Ça veut dire que vous allez continuer vos manifestations? Comment vous allez mettre en place ce changement?
En fait, on continuera encore avec les manifestations chaque vendredi et celles des étudiants chaque mardi. De faire réellement entendre notre voix, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas atteint notre but, on n'a pas atteint ce qu'on en voulait. Donc, on continuera de sortir, à faire entendre notre voix, à crier haut et fort ce qu'on cherche, jusqu'à avoir un réel changement, jusqu'à avoir la lumière d'un réel changement.
Qu'est-ce qui représenterait un réel changement pour vous?
Déjà, que ça ne soit plus le clan Bouteflika, c'est-à-dire Gaït Salah, etc., qui décide de qui sera ministre, de qui sera président. C'est-à-dire qu'on laisse le choix aux jeunes Algériens et qu'on investit beaucoup plus dans la jeunesse algérienne qu'autre chose.
Et concrètement alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place?
Ce qu'on pourrait mettre en place, c'est par exemple des plateaux, télé, radio, où on laisse la parole aux jeunes, aux étudiants notamment, pour qu'ils fassent écouter leurs avis, qu'ils donnent leur opinion. Parce que nous représentons l'avenir de ce pays, c'est pas nos parents, mais on devrait laisser plus la parole aux jeunes, qu'on devrait plutôt les former dès leur jeune âge, leur investir dans les écoles, l'éducation nationale et l'éducation universitaire, c'est-à-dire qu'on n'offre pas l'opportunité aux jeunes Algériens de travailler correctement et d'étudier correctement. Donc c'est pour ça qu'on connaît un gros taux de chômage et en vue aussi de tout l'argent qui a été dilapidé par le gouvernement, on n'a plus d'argent et on connaît une réelle crise économique.
Léna Abda, étudiante en littérature française, elle était jointe à Alger.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, un programme aide à former et à financer des jeunes vivant en zone rurale pour leur permettre d'investir dans l'agroalimentaire et de créer des emplois. Environ 2000 jeunes agriculteurs se sont inscrits au projet soutenu par le Fonds international de développement agricole, le FIDA, et le gouvernement de Yaoundé. Les précisions de Irénée Herman Ungbo.
Ferme d'Obala dans la région centrale du Cameroun. Gabriel Etta récolte du poivre. Âgé de 26 ans, il fait partie du groupe de jeunes agriculteurs du pays qui s'est inscrit au programme PEA Jeunes lancé en 2015 pour promouvoir l'agriculture chez les jeunes en vue de créer des emplois et améliorer la sécurité alimentaire, une initiative soutenue par le Fonds international de développement agricole FIDA et le gouvernement camerounais. Gabriel Eta, entrepreneur agricole, est l'un des bénéficiaires de ce programme.
J'ai beaucoup aimé l'agriculture, puisque un entrepreneur est appelé à progresser, ne pas être stagnant. Et déjà, si le PEA Jeunes m'a financé, ce n'était pas pour que je puisse caler seulement à une seule activité. C'était pour que je puisse progresser, pour que je puisse encore ouvrir d'autres activités qui peuvent encore aider d'autres jeunes.
Cet entrepreneur agricole cultive également du poivron, du concombre et des tomates sur environ 4 hectares. Voilà. Il a bénéficié d'une subvention de $200 américains. À cela s'ajoute une série de formations, notamment en agriculture et en finance, qui a permis à Gabriel Eta d'apprendre à gérer une entreprise agricole rentable.
Lorsque je pars au niveau du marché, je vends, je vois comment ça me produit de l'argent, je suis très fier.
Eta gère également un élevage de volailles qui s'est développé au cours des 3 dernières années pour atteindre plus de 1000 poulets aujourd'hui. Il emploie 3 autres jeunes qui gagnent en moyenne $800 américains et vend ses produits agricoles à des commerçants qui en retour les revendent sur le marché local. Frédéric François, revendeur, est l'un de ses clients.
Il produit un poulet bio parce que c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Et aussi, ce qui m'encourage chez lui, c'est que chaque fois que j'ai besoin du poulet, il est toujours en production. Donc, ce n'est pas le genre de producteur qu'aujourd'hui, vous venez, il a le poulet, demain, vous venez, vous ne trouvez pas. Chez Eta, en bon moment, on trouve le poulet presque chaque fois.
Cette année, Eta travaille pour des projets d'expansion de son entreprise agricole. Il ambitionne à cultiver aussi des fruits, notamment des ananas et des pastèques.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord commémore son 70e anniversaire ici à Washington avec moins de face que d'habitude. Elle redoute de nouvelles attaques verbales du président Donald Trump qui a à plusieurs reprises critiqué l'alliance militaire transatlantique. À l'issue d'un tête-à-tête mardi à la Maison-Blanche avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le chef de l'exécutif américain s'est félicité d'un partage accru des charges liées aux dépenses de défense collective. De la Maison-Blanche au reportage de Patsy Ouida Koutswara, récit d'Arzuma Compaoré.
C'est l'une des plus anciennes alliances des États-Unis et une pierre angulaire de la stratégie de défense américaine. Mais depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a souvent été laissée de côté. À Washington, la commémoration du 70e anniversaire de l'OTAN se fait de manière relativement discrète. Mardi, à la Maison-Blanche, le secrétaire général Jens Stoltenberg a semblé désarmer les critiques de Trump en le félicitant d'avoir poussé les autres pays à dépenser davantage pour la défense. Jens Stoltenberg est le secrétaire général de l'OTAN.
L'OTAN est une alliance forte. Nous avons augmenté le niveau de préparation des forces et intensifié nos efforts pour lutter contre le terrorisme. Et nous investissons davantage.
Trump s'est félicité du niveau plus élevé de partage des charges de l'OTAN, un plus grand nombre satisfait aux exigences financières pour la défense. Donald Trump, président des États-Unis.
Nous considérons le niveau actuel qui est de 2% du PIB. Je me dis que cela devrait probablement être plus élevé, mais pour l'instant, nous ne sommes qu'à 7 pays sur 28.
Conformément à sa politique étrangère de l'Amérique d'abord, Trump a mis en doute les avantages offerts par l'OTAN. Nicholas Byrne, ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN.
La crise la plus importante à laquelle l'OTAN est confrontée est l'absence, pour la première fois de son histoire, d'un président américain fort, doté des principes et qui croit en l'OTAN. Mais Donald Trump a été jusque-là le plus grand critique de l'OTAN.
Les dirigeants américains et européens ne s'entendent pas sur l'accord nucléaire iranien et le pacte sur les armes nucléaires avec la Russie. Trump s'est retiré des deux accords. Washington critique également les partenaires européens sur ce qu'ils considèrent comme une attitude laxiste face aux menaces sécuritaires chinoises. Les critiques soulignent également que pour une alliance créée pour contenir l'expansionnisme soviétique, certains membres ont tardé à reconnaître la politique étrangère agressive de Vladimir Poutine. John Herbst est du Conseil Atlantique.
Malheureusement, le principal obstacle reste la timidité de certains membres européens de l'OTAN à l'égard du Kremlin.
Bien que Stoltenberg ait écarté les préoccupations concernant les relations entre l'OTAN et les États-Unis, les réunions annuelles de cette année ont été transformées en des réunions de ministres des Affaires étrangères plutôt que de dirigeants, afin d'éviter le risque d'autres attaques verbales de la part du président américain.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Sheikh Tcherno. À la console, Justin. À la présentation, Eki Abadou et Eric Manilakis.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique.
Bienvenue à bord.